très Dieu, notre grand frère, Seigneur. Merci, Seigneur, tu nous as fait introduire dans ta famille, Seigneur. Oh, le cœur est rempli de reconnaissance, Jésus. Le cœur est rempli de joie, Seigneur, pour ce que tu es pour nous. Merci, Seigneur, pour tes visitations, Seigneur. En tant que Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, je suis fier de t'avoir pour grand, de t'avoir comme petit, de t'avoir comme mon grand frère, Seigneur notre Dieu. Je suis fier d'être compté comme membre de ta famille, Seigneur. Je suis fier de te connaître, Seigneur, et de t'appeler mon ami, Seigneur, mon confident, mon conseiller, mon allié, mon partenaire, Seigneur notre Dieu. Je suis content de t'appeler mon intime, Seigneur notre Dieu. Je suis content de t'appeler, Seigneur, l'ami du parcours, Seigneur. Tu es mon grand frère, Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais. Merci, Seigneur, Père de gloire, parce que tu es venu mourir pour nous à la croix, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes des ordures, nous ne valons rien, Seigneur. Mais ton amour, Seigneur notre Dieu, a trouvé des pierres précieuses au milieu des déchets, Seigneur. Merci Seigneur, je prie que chaque personne qui va entendre ces messages aujourd'hui trouve l'amour Seigneur notre Dieu qui t'a conduit à la croix Seigneur. Que chaque personne Seigneur qui nous suivra sur YouTube ou à la télé Seigneur notre Dieu trouve cet amour qui t'a amené à mourir pour nous à la croix Seigneur notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre grand frère qui nous a aimés? Tu nous as aimé de façon désintéressée. Il t'a aimé. Toi qui es une ordure, toi qui as des déchets, il t'a aimé. Il a trouvé en toi des qualités, alors que toi-même, tu trouves en toi tellement des défauts. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, des fois, il m'arrive dans la prière de dire à Jésus, je me pose vraiment la question, qu'est-ce qui t'attire chez moi? Parce que quand je me vois, quand je regarde ce que je suis, en termes de faiblesse, en termes de défauts, en termes de réactions dans les difficultés, en termes de tellement de lacunes, je me pose sincèrement la question, qu'est-ce que tu as trouvé chez moi pour t'attacher à moi? Quand je regarde à côté de moi, je vois des gens tellement excellents, des gens qui sont droits, mais qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui sont sérieux, organisé, discipliné, mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais moi, l'indiscipliné, les désorganisés, tout ce que j'ai de défauts en moi, je le sais, mais il s'attache quand même à moi. J'aimerais te dire que tu es aimé du Seigneur. Tu n'es pas aimé du Seigneur à cause de tes qualités. Tu es aimé parce qu'il a décidé de t'aimer. Oh, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour celui qui nous a aimés, même quand il n'avait pas de raison de nous aimer. Même quand il n'avait pas de raison valable de te choisir, il t'a choisi. Nous verrons ça avec vous. Même quand il n'avait pas de raison valable de te choisir, il t'a choisi. Alors, t'asseoir à la place dans laquelle tu t'es assis là pour écouter le Seigneur, sache que tu viens de loin. Amen. Peut-être que certains combats, tu ne le vois pas, Dieu les cache, mais tu viens de loin. Beaucoup ont même raté cette chance que toi tu as de s'asseoir là où toi tu t'es assis. Ils n'ont connu aucune personne qui leur a parlé de Jésus. Ils n'ont même pas eu l'occasion d'entendre parler de Jésus dans un marché, dans un taxi, à la radio, à la télévision. Mais toi, Dieu t'a suivi. Au Pengwa combien de fois? Dieu t'aime. Amen. Nous verrons ça avec vous. Je dis merci au pasteur Maurice qui a permis que je sois là devant vous. Franchement, sincèrement, c'est notre frère. Mais pour moi, personnellement, c'est des fois difficile de l'appeler frère, celui qui me force, celui qui m'enseigne, celui qui me nourrit, celui qui prie pour moi. Il a béni mon mariage. Chaque année, je viens le voir au début de l'année pour recevoir la phrase qui va m'accompagner toute l'année. Quand j'ai un défaut, il me reproche par ses prédications, il me nourrit. Tout ça, ça entre dans le mot pasteur. L'appeler frère, vraiment sincèrement, je sais que c'est biblique, et il est notre frère. Mais c'est comme si mon père biologique, qui a toujours été mon papa, que j'appelle mon papa du jour au lendemain, me dit « Christian, appelle-moi Marcel ». Donc c'est difficile, mais je ferai l'effort. Je dis merci à notre frère. Sincèrement, c'est difficile à notre frère, le pasteur Maurice, notre frère Maurice, qui me permet d'être devant vous. Je ne suis pas excellent, je ne suis pas bon. Je ne suis pas excellent, je ne suis pas bon, mais c'est la grâce de Dieu. Et c'est sa confiance aussi, à ne pas oublier, la grâce et sa confiance qui fait que je sois devant vous. C'est un honneur et un défi parce que je vois un peuple nombreux qui vient. Ils viennent de tous les horizons avec différents problèmes. Ils ont besoin d'entendre Jésus leur parler. Et je dis, Seigneur, mes infirmités, mes maladresses, mes défauts ne doivent pas être un obstacle pour que tu leur parles. Je prie que le Seigneur te parle dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous prenons la Bible dans Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Et puis Luc chapitre 8, verset 26 à 39. Marc 5, 1 à 20 et Luc chapitre 8, 26 à 39. Je prie qu'aujourd'hui tu te sentes aimé de Jésus. Marc chapitre 5, 1 à 20. Marc 5, 1 à 20 et Luc 8, 26 à 39. Nous lisons au nom de Jésus. Marc 5, 1 à 20. Ils arrivèrent, ils c'est qui? Jésus et les apôtres, arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ah bon? Car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il n'est pas sorti du coup, il discutait. Il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait, les démons priaient Jésus, instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux, c'est-à-dire de cochons qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, donc commerce et couffit. Ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus, ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Luc chapitre 8, verset 26 à 39, c'est toujours le même texte, mais dans deux évangiles différents. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. C'est pour ça que j'ai voulu aussi cette version. Il ne portait pas de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans le sépulcre. Et en vue Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Nous nous rendons compte que Jésus-Christ lui commandait de sortir, mais il ne sort pas. Il discute. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondirent, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. On peut s'arrêter là. Seigneur, c'est ta parole. Tu es venu défendre l'héritage d'un fou possédé
d'une légion. Seigneur notre Dieu, jusqu'où vas-tu aller quand il est question de la défense de l'héritage de tes enfants, Seigneur notre Dieu? Même la possession démoniaque n'empêchera pas à ton enfant de posséder son héritage. Seigneur notre Dieu, je t'en supplie, Seigneur, que chacun de nous ait son héritage défendu, afin que nous puissions en jouir pleinement dans les noms puissants de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore une fois de plus pour la parole de Dieu? Mon thème est simple, il s'intitule « L'héritage du fou des Gadara ». J'ai dit que mon thème s'intitule « L'héritage du fou de Gadara ». Je trouvais que cet homme, même étant fou, étant possédé, avait un héritage. J'aimerais te dire que toi aussi tu as un héritage. Alléluia. Et pour notre pensée du jour, nous aurons trois points. Le premier point, c'est le chemin de la défense de l'héritage. Le chemin de la défense de l'héritage. L'héritage, la défense de l'héritage passe par un chemin. Nous verrons ça avec vous. Le chemin de la défense de l'héritage. Le deuxième point, c'est l'héritage d'un possédé. Et enfin, le troisième point, c'est la confrontation ou l'affrontement des programmes. La confrontation des programmes. Le chemin de la défense de l'héritage, l'héritage d'un possédé, la confrontation des programmes. Voilà, c'est affiché à l'écran. Premier point, le chemin de la défense de l'héritage. Par où devons-nous passer quand Dieu veut défendre notre héritage? Où? Je peux encore reformuler ma question. Par où Dieu passe quand il veut défendre notre héritage? Par où les hommes passent quand Dieu veut défendre notre héritage? Et par où Dieu passe quand il veut défendre notre héritage? Vous allez voir que quand il est question de la défense d'un héritage, quand on parle de Dieu défendra mon héritage, quand il est question de la défense, c'est qu'il y a un péril. Amen. C'est que l'héritage est en danger, l'héritage est en péril. Nous ne parlerions pas de la défense de l'héritage si cet héritage n'était pas remis en question, si cet héritage n'était pas en danger. Donc quand il est question de la défense d'un héritage, c'est que cet héritage est en péril. Donc la première chose par laquelle on passera lorsque Dieu veut défendre notre héritage, on doit passer par le péril. Et Dieu aussi passe par le péril. Très souvent, nous avons tendance à croire « Dieu est le Tout-Puissant. S'il ne me donne pas mon héritage, il ne perd rien. Et si je prends mon héritage, il ne gagne rien. » Mensonge. Dieu perd aussi. Si tu perds ton héritage, Dieu perd. Nous avons tendance à croire que Dieu est le Tout-Puissant. Ce qui se passe sur la terre ne nous intéresse pas. Parce qu'à tout moment, il y a des pièces. Il y a des pièces de substitution, il y a des pièces de remplacement. Si avec toi ça ne marche pas, il n'aura qu'à tirer un pion. Dieu s'investit pour perdre. Tu te trompes. Je vais te dire que Dieu ne s'investira jamais dans ta vie pour qu'il te perde. Amen. Dieu aussi passe par le péril. Donc quand nous disons que l'Éternel défendra mon héritage, tu seras exposé, mais Dieu aussi va s'exposer. Lorsque nous lisons dans la Bible nous dit que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des X, Y, Z. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita des libérateurs. Mais le libérateur va affronter l'oppresseur. Le libérateur va affronter la mort, va affronter des dangers. Autrement dit, la défense de ton héritage te mettra en danger et mettra aussi Dieu en danger. Nous verrons ça avec vous. Alors, il n'y a pas d'héritage à défendre sans péril. Si tu vois une personne jouir de son héritage, sache que ça vient de loin. Si tu vois un bien-aimé assis en train d'entendre la parole de Dieu, sache qu'il vient de loin. Si tu vois une personne jouir de son héritage, jouir de son mariage dans la paix, jouir de ses enfants dans la paix, jouir de son travail dans la paix, sache que ça vient de loin. Entre la jouissance et la défense, au milieu, il y a le péril. Tu ne sais pas par où cet héritage est passé pour qu'il puisse vivre dans toute la quiétude. Vous ne savez pas par où les mariés passent pour que leur mariage soit un mariage de paix. Vous ne savez pas par où ces enfants passent pour que ces enfants naissent dans toute tranquillité. Vous ne savez pas par où ces célibataires passent pour se marier et avoir un mariage qui leur donnera le bonheur. Vous ne savez pas par où les travailleurs passent pour avoir un travail qui répond à leurs attentes. entre la défense et la justice au milieu, il y a un péril qui est passé. Je disais que très souvent nous pensons que Dieu n'a rien à perdre si nous perdons notre héritage. Nous verrons que Dieu a beaucoup à perdre si ton héritage t'échappe. Alors, qu'est-ce que le Christ met en péril en voulant défendre l'héritage du fou de Gadara? Vous allez voir que le Christ s'est mis en péril. Qu'est-ce qu'il a mis en péril? Premièrement, le Christ a mis en péril sa vie. Vous allez me dire, mais frère Christian, qu'est-ce que tu viens nous apprendre? Qu'on pouvait tuer Jésus? J'ai dit oui. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 8, versets 58 à 59, la Bible déclare que Christ était en train de parler. Il leur dit qu'avant qu'Abraham fût, moi je suis. La Bible déclare qu'ils ont pris des pierres pour les lapider. Jésus a fui. Jésus-Christ est Dieu sur la terre. Les démons se prosternent devant lui. Bazima bangaba betaye souye soit kimi. Quand il fuit, ça signifie quoi? Qu'il allait mourir avant le temps. Jésus-Christ est sous la terre en tant qu'homme à qui il ment. Yonde ba obete masse sur qui maté. Yonde ba obete masse sur qui maté. Osomo na marché tuzoya. Tu es plus que Élie, le feu va descendre et brûler. Faut fuir. Le Christ est sous la terre, a fui. Toi aussi, fuis. Jean chapitre 10, verset 39. On dit, mais Jésus, jusque à quand tu vas mettre notre vie en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Il leur dit, il leur affirme qu'il est Dieu. La Bible déclare qu'ils ont pris encore des pierres pour les lapider. Jésus s'est caché. Il est sabbat ami. Donc le Christ est humainement sous la terre, a mis sa vie en péril pour défendre tes intérêts. C'est toi qui penses que le Christ n'a rien risqué. Le Christ a risqué. Il a risqué des coups, il a risqué des pierres, il a fui pour tes intérêts. Cet homme est allé défendre, Jésus est allé défendre les fous de Gadara. Et pour sa délivrance, toute une entreprise est tombée en faillite. Vous savez à quoi Christ s'est exposé? On pourrait dire que mais c'est toi qui as tué notre entreprise, Jésus, on va s'occuper de toi aujourd'hui. Mais le Christ a risqué l'hostilité d'un pays. Le Christ a risqué. Les gens lui chassent. Il dit, va-t'en loin de nous. Donc, ils étaient hostiles à Jésus. Mais le Christ a mis sa vie en danger. Il a mis tout ce qu'il a de précieux. Sa mission, il est venu pour nous sauver. Le Christ a mis sa mission en danger pour tes intérêts. La deuxième des choses que Christ a exposé, c'est son Église. Jésus-Christ ne marchait pas seul. Il marchait avec Pierre, Jacques, Jean, les 12 apôtres, qui représentent l'Église qui allait commencer. Le projet caché de Dieu, où la Bible déclare que les anges désirent même plonger leur regard. Le Christ, si le Christ est lapidé, Pierre sera lapidé. Si Jésus est lapidé, Jacques, Jean, Thomas, Philippe, Matthieu, Barthélemy, Judas, Siméon, tous ces gens seront lapidés. Autrement dit, le Christ est lapidé, c'est l'Église qui est hypothéquée. L'Église, c'est l'héritage de Jésus. Jésus-Christ met son héritage en danger pour défendre ton héritage. Jésus-Christ met l'héritage qu'il voulait nous léguer, l'Église, où les païens et les juifs sont sauvés. Le seul canal par lequel on entre dans la famille de Dieu. Jésus-Christ met son héritage en danger pour sauver l'héritage d'un fou. Il s'est mis en danger. C'est pour dire que quand il est question de la défense de l'héritage, ça va mettre quelque chose de ta vie en danger. On ne peut pas parler de la défense de l'héritage si rien dans notre vie n'a été touché. Ne nous trompons pas, ne croyons pas que lorsque nous disons que l'Éternel défendra mon héritage, tu vas t'asseoir sur ta chaise et puis Dieu se bat à gauche, à droite, toi tu restes tranquille. Non. Le Seigneur se met en danger et toi tu seras en danger. Les 12 apôtres réunis représentent la future Église, projet caché des dieux, que même les anges désiraient plonger leur regard sur la terre pour comprendre. Ce projet mûrement préparé par Dieu depuis le commencement du monde a été exposé, a été mis en péril pour l'héritage du fou de Gadara. Qu'est-ce que le Christ a encore mis en péril? Vous allez vous rendre compte que le Christ a mis en péril sa réputation. Il a mis en péril sa réputation. Il arrive dans un milieu où il pouvait être bien accueilli, où il pouvait faire des miracles dans toute la quiétude, mais que l'on apprend que l'homme qui nous a appauvris, c'est celui-là. Jésus a sali sa réputation pour sauver un fou. Jésus a sali sa réputation pour sauver un fou. J'aimerais te dire, les plus petits dégâts dans la vie d'un homme, c'est la réputation. Amen. Les plus petits dégâts dans la vie d'un homme par lesquels le diable peut passer pour te toucher, c'est la réputation. La réputation de Christ a été salie. Et si vous lisez dans la Bible, il y a parmi les choses sacrées pour Dieu, il y a sa réputation. La Bible nous montre que Dieu regarde les enfants d'Israël et dit, la façon dont Israël marche ici, normalement je ne devais pas marcher avec eux. Mais pour l'amour de mon nom, je ne peux pas les abandonner. Pour mon nom doit être craint sur la terre. Mon nom doit être respecté sur la terre. Le nom de Dieu chez nous, les hommes, ça ne signifie rien. Mais pour Dieu, son nom. Ah, le nom de Dieu, que le nom de Dieu soit bafoué chez ses ennemis. Ah non, l'Éternel, son nom, doit être craint sur toute la terre. Il s'efface contre les enfants d'Israël. Il dit à Moïse, Moïse, je vais les brûler en un instant. Laisse-moi, je vais les consumer. Moïse dit, Seigneur, toi, je te connais. Toi, tu aimes trop ton nom. Qu'est-ce que l'on dira pour ton grand nom? Pour ton grand nom. Quand tu auras tué ces peuples, j'ai dit, ah oui, en tout cas, cette affaire touche mon nom, je ne les frappe plus. La gloire de mon nom remplira toute la terre. Comment Jésus, son nom, la réputation de son nom, les pharisiens disent à Jésus que c'est par Belzéboul qu'il chasse les démons. Jésus s'efface. Il dit que tout blasphème contre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est lui-même Dieu, tout blasphème contre lui ne sera jamais pardonné. C'est depuis ce jour-là qu'on découvre qu'il y a un péché qui n'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce qu'on a touché à son nom. Mais celui-là, où sa réputation est sacrée, met sa réputation en péril pour un fou de Gadara. Tu ne sais pas jusqu'où Jésus s'est exposé pour te sauver. Tu ne sais pas jusqu'où Jésus-Christ a trempé pour te sauver. Tu ne sais pas jusqu'où Jésus-Christ a creusé. Tu ne sais pas dans quel dossier Jésus-Christ est entré. Si nous regardons nos vies, il y a des dossiers sales. Le Dieu s'est fouillé dans la saleté pour te chercher. Il a mis sa réputation de côté. Vous savez, des fois, il arrive que tu regardes comment Dieu sauve des gens. Tu regardes, Seigneur, même celui-là, il était sauvé par toi. T'es une amata l'a raté. Quand il a décidé de t'aimer, il t'a aimé. J'aimerais te rassurer de t'approcher du Seigneur. Quand le Seigneur décide de t'aimer, il t'aime sincèrement. Pour quand nous regardons nos vies, quand nous regardons vos vies, quand nous regardons par où Dieu passe, dans la salité, un Dieu qui est saint, vous l'avez des cas que même les anges dans les cieux n'arrivent pas à les regarder en face parce qu'il est trop saint. Tout celui qui le voit ne peut pas résister devant lui. Les anges qui sont saints, comme lui, ont des ailes pour se cacher les yeux parce qu'ils ne peuvent pas les regarder. Mais celui-là, qui a une sainteté ineffable, à tel point que Moïse ne peut même pas s'approcher de lui avec des chaussures, faut enlever des chaussures, celui-là vient tremper dans la saleté de ta vie pour te sauver. Oh. Il vient tremper dans la saleté de ta vie pour te sauver. Tu me poses la question, comment il supporte la saleté? Des fois, nous passons dans nos rues, on est au Congo, on pisse partout, et il y a des gens qui font de matière fécale partout. Tu bloques le nez, mais ta vie sent mauvais malgré l'odeur de ta vie, il est venu quand même. Ah! Alors quand il faut adorer Dieu, adore Dieu avec calme, avec sérénité. Parce que malgré l'odeur de ta vie, ayakaka, akimate, l'odeur de la poubelle de ta vie, il est quand même venu, il t'a cherché parmi les déchets. Jésus-Christ est digne de notre amour, est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Il a beaucoup sacrifié. Il a beaucoup sacrifié pour que tu sois ce que tu es. Il a beaucoup sacrifié pour t'aimer. Il a beaucoup sacrifié pour ton bien. Il a beaucoup sacrifié pour que tu deviennes l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es un homme patient. Le Seigneur a beaucoup sacrifié. Même quand on ne te paye pas bien, mais tu ne touches pas à l'argent de l'État. Le Seigneur a beaucoup sacrifié. Moi, c'est Ndumba. Aujourd'hui, tu es une femme posée, fidèle dans ton foyer. Le Seigneur a beaucoup sacrifié. Pour ton cœur, il a beaucoup sacrifié. Il s'est mis en péril. Pour ton cas, Jésus s'est mis en péril. Dieu tient à la gloire de son nom. Elle a du prix à ses yeux. Mais Christ a exposé sa réputation. Il a accepté l'inacceptable pour sauver un fou possédé des esprits mauvais. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de ces premiers points? Ce que nous devons retenir, c'est que Dieu défend notre héritage parce que nous sommes un investissement qui ne tolère aucune perte. Amen. Je veux que si Dieu défend ton héritage, il te défend parce que tu es pour lui un investissement qui ne tolère aucune perte. Et c'est ce que nous avons vu. Lorsque je regarde même des exemples dans la Bible, je le vois. Mon frère, je disais que pour que toi, tu craignes Dieu aujourd'hui, quand vous avez commencé à craindre le Seigneur, vous étiez à plusieurs. Beaucoup se sont perdus en chemin, mais toi aussi tu t'es perdu, Dieu t'a ramené. Amen. Je me suis toujours posé cette question. Quand je regarde, c'est avec qui nous avons commencé, avec le Seigneur, à l'âge de 10 ans, je me rends compte que beaucoup en chemin se sont perdus. Ils ne sont plus dans la foi. Tu vois en eux l'appel, l'onction, la grâce, le miracle, tu vois, mais ils se sont perdus. Mais toi aussi, tu t'es perdu un moment comme eux. Jésus ne les a pas cherchés, il t'a cherché toi. C'est parce que tu es son investissement, il n'acceptera pas de te perdre. Et c'est le même principe dans la Bible. Simon Pierre et Judas, ce sont des collègues dans la même entreprise de Jésus. Ce sont des partenaires. Judas Iscariote tient la caisse. Simon est parmi les apôtres qui sont parmi les intimes de Jésus, donc il était comme le chef des autres apôtres. Donc, et Judas et Simon-Pierre faisaient partie du comité de Jésus. Et une personne comme Judas, Jésus l'appelle mon ami. Jésus n'a jamais appelé Simon-Pierre mon ami. Jésus n'a jamais appelé Jean mon ami. Judas, Jésus l'appelle mon ami. Et je me suis rendu compte que Judas Iscariote a trahi Jésus 3 fois. Simon-Pierre a trahi aussi Jésus 3 fois. Simon-Pierre a renié Jésus 3 fois. C'est dans la Bible. Il a renié Jésus 3 fois. Et le coq a chanté. Judas a trahi Jésus 3 fois. La première fois qu'il a trahi Jésus, c'est lorsqu'il volait. La Bible déclare qu'il volait l'argent qui se trouvait dans la caisse. Une trahison. Tu marches avec quelqu'un et les finances permettent de faire des déplacements, de faire des voyages, d'acheter à manger. Mais toi, tu es en train de menacer cette entreprise en volant. C'est une trahison. Il a trahi Jésus en les vendant. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. C'est une trahison. Au lieu de s'arrêter là, le signal de la trahison, c'est la bise d'un ami. C'est encore pire que les 2 premières trahisons. Judas, comme Simon-Pierre, dans la même famille, dans la même entreprise, dans les mêmes réalités, dans les mêmes comités, ils ont trahi Jésus 3 fois. Jésus n'a jamais cherché Judas. Quand Judas s'est perdu, il est parti définitivement. Mais Simon-Pierre qui a régné Jésus, ou quand nous lisons dans la Bible, où Jésus-Christ dit que celui qui me régnera sur la terre, je le régnerai devant mon Père. Devant Papa Nanga. Simon-Pierre a wangana, il se fait des pierres qu'il a même juré avec imprécation. Mais celui-là qui a juré 3 fois, première fois, deuxième fois, troisième fois, avec imprécation, c'est celui-là pour lequel tu dis que j'ai prié pour toi. Amen. J'ai compris ceci. Ils étaient tous dans la même famille, mais Simon-Pierre était l'investissement que Christ ne pouvait pas accepter de faire. Amen. Simon-Pierre était l'investissement que Jésus ne pouvait pas accepter de perdre. Je m'étais dit que si tu restes enfant de Dieu, malgré toutes les turbulences, tu restes enfant de Dieu, malgré toutes les attaques que tu as connues, malgré la faiblesse dans laquelle le diable t'a trouvé, malgré les péchés que tu as commis, malgré tout ce que tu as fait, mais tu es toujours dans le camp des enfants de Dieu, c'est parce que tu es son investissement que le Christ ne veut pas perdre. Alléluia. Même quand ça va chauffer, dis-toi, je suis ton investissement. Tu ne toléreras pas de me perdre. Je suis un investissement. Tu ne toléreras pas de me perdre. Le Seigneur, pour lui, tu es son investissement. Il ne tolérera aucune perte pour toi. Le Seigneur s'est beaucoup investi en toi. Le Seigneur t'a beaucoup donné. Le Seigneur a beaucoup semé en toi. Il n'acceptera pas de le perdre. Vous savez même, quand on fait un chiffre d'affaires, il y a ce qu'on appelle la marge d'erreur. On se dit qu'on peut connaître des petites pertes, mais il y a une petite marge qu'on peut tolérer et s'en sortir. Mais pour ta vie, le Christ n'a accepté aucune perte.
Pour ta vie, le Christ n'a pas accepté que le diable puisse t'avoir. Pour ta vie, le Christ n'a pas accepté que ton problème puisse t'avoir. Pour ta vie, le Christ n'a pas accepté. Il a dit, tu n'as perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf celui qui devait se perdre. Autrement dit, celui-là, voilà, mais bah, oh, je ne le perdrai pas. Je me suis dit que tu ne sais pas quelle prière Christ a fait pour toi. Le bien des cas que le Christ est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Est-ce que tu t'es déjà posé, qu'est-ce que le Seigneur prononce comme parole devant mon Dieu pour que je reste encore debout? Quelles sont les paroles que le Seigneur prononce quand il nous trouve dans la faiblesse pour que je reste encore debout? Quelles sont les paroles que le Seigneur prononce pour que tu aies l'épouse que tu as? Quelles sont les paroles que le Seigneur prononce pour que tu aies des enfants qui te donnent la paix? Quelles sont les paroles que le Seigneur prononce devant le Père pour que tu aies un travail qui te donne la tranquillité? Pour toi, le Seigneur est en train de s'investir, il n'acceptera pas de te perdre. Alors quand tu trouveras ta vie aller dans des difficultés, quand tu trouveras ta vie en train de t'échapper, quand tu trouveras ta vie dans des problèmes, j'aimerais que tu te rassures en te disant que mon Seigneur m'aime. Je suis un investissement qui ne tolère aucune perte. Le Seigneur ne me perdra pas, il fera tout ce qu'il faut. Il mettra les gros moyens pour me sortir d'affaires. Pour ta vie, le Seigneur mettra les gros moyens pour te sortir d'affaires. Pour ta vie, le Seigneur fera ce qu'il faut pour te sortir d'affaires. Le deuxième point, c'est l'héritage d'un possédé. L'héritage d'un possédé. J'ai parlé que Christ est venu pour défendre notre héritage. Mais quel héritage? Quel était l'héritage du fou de Gadara que Christ est venu défendre? Premièrement, j'ai trouvé que le Christ est venu défendre sa dignité. Parce que cet homme n'avait plus de dignité. La Bible nous montre que les démons entrant en lui l'ont ôté tous ses vêtements. La nudité de cet homme était connue dans toute la ville. Tout le monde l'avait vu nu. S'il avait des malformations, s'il avait des déformations, s'il avait des taches de naissance, tous ceux qui pouvaient cacher sous des vêtements étaient connus aux yeux de tout le monde. C'est pour cela que j'aimerais encourager un bien-aimé. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, ne travaille jamais pour le diable. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, ne passe jamais dans le camp du diable. Parce que ta nudité que Christ te cache, le diable l'expose. Ta nudité que Christ te cache, le diable l'expose. La Bible nous montre que l'homme a péché, Dieu a vêtu l'homme. Les démons entrent à l'homme, ils jettent les habits par terre. Quand tu es dans le camp du diable, quelle que soit la fortune que tu as, quel que soit le respect que tu as, quel que soit l'honneur que l'on te donne, ta nudité sera exposée de tout le monde. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, tes faiblesses seront exposées de tout le monde. Soyons dans le camp de Jésus, quand nous avons des faiblesses, il les traite en interne, mais notre nudité la protège. Soyons dans le camp de Jésus, ta nudité sera protégée. Le diable nous expose. Travailler pour le diable, c'est accepter de s'exposer. Travailler pour le diable, c'est accepter que ta nudité soit connue au vu aussi de tout le monde. Tes défauts soient exposés aux yeux de tout le monde. Et le diable expose mal. Jésus, quand il expose, c'est pour corriger. C'est pour changer. C'est pour ramener. Et après, il récupère. Mais le diable, quand il t'expose, c'est pour te nuire. C'est pour tout te ravir. Cet homme, même les vêtements, nous voyons des fous passer ici. Et parfois même, certains fous qui passent ici ont touché à l'occultisme, mais ils gardent leurs vêtements. Mais cet homme, le démon était tellement méchant en lui, au point qu'on a même arraché ses vêtements. Jésus-Christ est revenu aujourd'hui pour te donner la dignité que tu avais perdue. Le Seigneur est venu aujourd'hui pour te donner la dignité que tu as perdue par la nudité qui est exposée. Le Seigneur est venu aujourd'hui pour te donner la dignité que tu as perdue par cette maladie. Le Seigneur est venu aujourd'hui pour te donner la dignité que tu as perdue par ton problème. Peut-être que tu es là, tu es dans la stérilité, et la stérilité est devenue ta nudité. Tu es devenu la référence du quartier. Il m'est arrivé que j'allais quelque part pour question de suivi. Lorsque nous étions à la ville haute, nous faisions le suivi, et puis j'avais les faits de suivi, les jours d'évangélisation, je n'étais pas là. Je me renseigne, je demande à un passant, je dis, bon, les quartiers tels, c'est où? Il me dit, ah. Va seulement tout droit, dès que tu arrives au coin de la rue, Tuna, Lopango, moi, c'est à beau raté. Quelle référence! J'arrive au coin de la rue, na Tuna, Lopango, moi, c'est à beau raté. Pourquoi? Sa nudité est exposée aux yeux de tout le monde.
tu viens proposer une séance, on te dit, pour ta famille, on a kebana famille, on a baba la kate. La nudité est exposée de tout le monde. J'aimerais parler à celui dont sa nudité a été exposée de la terre. Le Seigneur te donnera la dignité au nom de Jésus. C'est lui qui avait des vêtements qui étaient déchirés. Les hommes sont venus le trouver assis dans son bon sens. J'aimerais te dire que le programme de Jésus pour ta vie, c'est qu'ils te verront assis dans ton bon sens. Les gens te viendront calme. Ils te connaissaient que tu n'étais pas posé. Ils te connaissaient que tu n'avais pas d'avenir. Ils verront ton avenir en train d'évoluer. Parce que le Seigneur va les remettre dans son bon sens. Ta vie sera assise, la vie qui était déstabilisée, la vie qui était agitée, le Seigneur la remettra dans son bon sens. Le Seigneur te remettra ta dignité que tu avais perdue au nom de Jésus. Quand nous parlerons au Seigneur aujourd'hui, nous dirons, Seigneur, s'il te plaît, j'ai perdu beaucoup. Ma nudité est exposée. Redonne-moi la dignité, que je sois assis dans mon bon sens. Le deuxième héritage de ce fou de Gadara, c'est sa vie. Le Seigneur l'a donné sa dignité, mais le Seigneur l'a rendu aussi sa vie. La vie de cet homme avait été hypothéquée par des démons appelés Légion. Je voudrais vous poser la question, comment s'appelait cet homme? Le fou de Gadara. On l'appelle fou de Gadara. Comment il s'appelle? Jusqu'aujourd'hui, nous ne connaîtrons jamais son nom. Pourquoi? Parce que des démons ont dominé sa vie. Les démons se sont présentés, mais lui ne pouvait même pas se présenter. Les démons n'avaient même pas les respects de dire que nous appelons les gens, nous occupons le corps des X. On allait au moins retracer son nom. C'est pour te dire que quand les oppressions viennent dans ta vie, quand la pauvreté vient dans ta vie, quand la souffrance vient dans ta vie, quand les diables viennent dans ta vie, tu perds le contrôle de ta vie. Tu perds ton identité, tu perds tes repères, tu perds même ce qui peut faire de toi un homme. Cet homme n'avait même plus droit à un nom. Nous connaissons que c'est le fou de Gadara, mais le fou de Gadara a un nom. On ne connaît pas les noms. Nous connaissons les noms du démon qui l'occupe, mais nous ne connaissons pas les noms de l'individu occupé. J'ai prié que ta vie te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. La vie qui t'a été arrachée par la maladie te soit rendue dans le nom de Jésus. La vie qui t'a été arrachée par les oppressions démoniaques te soit rendue dans le nom de Jésus. La vie qui t'a été arrachée par le chômage te soit rendue dans le nom de Jésus. La vie qui t'a été arrachée par les deuils, par le célibat, te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te redonne ton identité. Que Dieu te redonne tes repères. Que Dieu te redonne le contrôle de ta vie. Que Dieu te redonne le contrôle de ta vie dans le nom puissant de Jésus. La vie de cet homme avait été hypothéquée par des démons appelés Légion. Nous ne connaissons pas et nous ne connaîtrons jamais le nom de cet homme, car il n'avait plus d'identité, il n'avait plus de repères, il n'avait plus de décision pour sa vie. Cet homme n'existait plus, car c'était autre chose qui le dirigeait. La troisième chose qu'elle est triste est venu rendre à cet homme, c'est sa famille. Et la Bible nous montre que Dieu, Jésus, lui dit, va dans ta maison. Jésus n'a jamais dit, rentre chez tes parents. Va dans ta maison. Cet homme avait une maison et rencontre au tien. Il avait sûrement une femme, il avait peut-être des enfants, peut-être qu'il avait un travail, peut-être qu'il avait les champs, peut-être. Il avait une vie sociale, il avait des amis. La Bible, elle dit que c'était un homme de la ville. Il se retrouve dans les sépulcres. Regardez jusqu'où le diable a pu amener un homme. Si tu vas posséder un homme, laisse-le posséder dans sa maison. Le diable les déplace de la maison, il les jette jusque dans les tombeaux. Tombeaux, c'est-à-dire que là où il y a des morts, là où il y a des cadavres, là où il y a des personnes qui pourrissent, qui sont en état de décomposition. Regardez le projet du diable pour ta vie. Ne travaille pas pour le diable, bien-aimé. Je t'en supplie. Même quand il te combat, il te menace d'entrer dans son camp, dit, même si tu dois me tuer, tue-moi, je n'entrerai jamais dans ton camp. Parce que tout ce que le diable peut faire, c'est de t'amener dans le tombeau. Sauf que vous possédez, mais laisse-moi avec les miens, en tant que possédé, mais avec les miens. Nous voyons les païens dans le monde, vivant avec le diable, mais avec les siens. Comment tu peux déplacer une personne? Tu l'arraches de la famille, tu l'arraches de sa femme, tu l'arraches de ses enfants, tu l'arraches de son travail, tu l'arraches de tout ce qu'il fait. Tu les jettes dans les tombeaux, là où il y a des vers qui rongent le corps, là où il y a des hommes qui sentent mauvais. Tu les fais dormir dans les sépulcres. Satan est méchant. Il ne faut jamais l'aimer. Et des fois, quand j'ai pris la maison, j'ai dit au diable, Satan, chez moi là, tu n'entreras jamais. Combat comme tu vas combattre, mais dans ma maison, tu n'entres pas. Parce que tu es méchant. Le diable est méchant.
La Bible déclare que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Tout ce qu'il connaît, c'est égorger, dérober et détruire.
Le Seigneur est venu te rendre ta famille. Il est venu te rendre ton couple qui était en train d'être déchiré, en train d'être disloqué par les démons. Qui est en train d'être allé dans la voie du divorce. Le Seigneur aujourd'hui veut te rendre ton épouse qui voulait aller dans l'infidélité. Le Seigneur aujourd'hui veut te rendre ton mari qui avait l'intention de te quitter pour se remarier ailleurs. Le Seigneur aujourd'hui veut te rendre tes enfants qui commençaient à devenir comme des petits délinquants. Le Seigneur veut te rendre ta santé qui commençait à te déranger, à te faire dépenser. Le Seigneur veut te rendre ton travail, tout ce qui concerne ta vie. Le Seigneur te dit que je vais te le rendre. Le Seigneur va te rendre ce que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un a besoin que le Seigneur lui rende quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Ce que tu as perdu, le Seigneur va te le rendre. Ce que tu as perdu, le Seigneur va te le rendre. Le Seigneur va te le donner. Le respect que tu as perdu, le Seigneur va te le donner. Jésus est le seul, nous verrons, qui a un programme complet. Quand il vient dans ta vie, il touche la dignité, il touche ta vie, il touche ta famille, il touche tes soucis, il touche ta santé, il touche ta paix, il touche ton mariage, il touche tous les domaines. Venons à Jésus, qui a le programme complet pour nous. Jésus a le programme complet pour nous. Pour cet homme, Jésus avait un programme complet. Quand il vient vers lui, il touche à sa famille. Il dit, rentre vers ta famille. Ta femme, tu l'as vu il y a longtemps. Rentre vers ta famille. Tes enfants, tu les as embrassés il y a longtemps. Rentre vers ta famille. Ton travail, tu as travaillé il y a longtemps. Ton champ, tu l'as laissé. Rentre vers ton champ. Le Seigneur te redonnera ce que tu avais perdu entre les mains du diable. Le Seigneur te les redonnera au nom puissant de Jésus. Quelle leçon nous pouvons retenir de ce deuxième point de l'héritage d'un possédé? Cet homme avait déjà atteint toutes les étapes pour être considéré comme un perdu. Lorsque je regarde le fou de Gadara, c'est un homme qui avait atteint toutes les étapes à laquelle on ne pouvait rien attendre de bon de sa vie. D'abord, il était possédé d'une légion. La légion, c'est une armée d'infanterie qui contient 3 à 6 000 soldats. Cet homme avait en lui 6 000 démons. Deuxièmement, cet homme était un danger pour la société, puisqu'on a cherché plusieurs fois à les lier avec des chaînes. Donc c'était un indésirable qui ne pouvait rien produire de bon dans la vie. Il mettait les pays en danger et il était possédé de 6 000 démons. Judas, tout ce que Judas a fait, l'avait déclaré qu'un esprit de diable est entré en lui. Mais ce monsieur avait 6 000 démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus-Christ marchait avec une femme, je ne sais pas si Suzanne ou qui était possédée de 7 démons. Mais lui, il en a 6 000. 6 000. Je me suis posé la question, qu'est-ce que cet homme a fait pour attirer 6 000 démons en lui? Sincèrement, au Salinini, porte-moi au Fumolo, Fumolo, que mon Nengenini, pour 6 000 démons, il y a qu'on fasse dans notre Nayo. Mais cet homme était le réceptacle du monde des ténèbres, dont le royaume des ténèbres s'est promené avec lui. Qu'est-ce que cet homme avait fait comme dégât dans la société pour que l'on trouve qu'on commence à les lier avec des chaînes de fer? Nous vivons des fois avec des voisins, avec dans nos quartiers ou ailleurs, vous avez des occultistes autour de vous. Mais vous n'avez pas d'altercation avec eux. Ils vivent dans leur occultisme et leur occultisme les concerne. Leur vie, vous êtes avec votre Jésus. Mais qu'est-ce que cet homme a fait comme dégât dans la société pour que l'on cherche à les lier avec des chaînes de fer pour éviter? Nous nous rendons compte qu'il a été possédé de 6 000 démons, nous ne savons pas comment. Nous nous rendons compte qu'il a fait des dégâts et on l'a attaché avec des chaînes de fer plusieurs fois, nous ne savons pas pourquoi. Mais malgré tous ces détails lacunaires dans l'histoire de cet homme, Jésus est venu quand même pour le sauver. Moi, c'est ça qui m'a étonné. C'est pour dire ceci. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu as fait. Il s'intéresse à ce que tu feras avec lui. Alléluia. Oh, ton passé ne compte même pas pour Jésus. Jésus n'a pas de permission à demander à quiconque avant de te visiter. Parce que s'il devait demander à qui que ce soit avant de te visiter, tu ne serais pas sauvé. Jésus ne regarde pas notre passé. Jésus n'a pas considéré son passé. Il n'a pas considéré le coût de la délivrance. Il n'a pas regardé le prix de la délivrance de cet homme. Il est venu simplement pour te sauver. Alors j'aimerais parler à toi, qui est comme le fou de Gadara. Tu as tellement avorté, tu as avorté, tu as avorté, et même ta vie a été en danger. j'aimerais te dire que ce que tu as fait est mal, c'est péché. Mais si tu te répands, Christ va te donner un héritage.
J'aimerais te parler à toi qui sors avec le mari d'autrui. Tu as fait pleurer la femme d'autrui. Ce que tu as fait, c'est mal. Là, à cause de toi, la femme d'autrui commence à gêner. Matin, midi, soir avec ton nom. Ce que tu as fait, c'est péché. Mais si toi aussi tu te répands, peu importe ton passé, Jésus te donnera un héritage. J'aimerais parler à un homme qui a corrompu dans l'entreprise, la voiture. Ça vient de la corruption. Ta maison, ça vient de la corruption. L'argent de ton mariage, ça vient de la corruption. Même les pains que tu manges, ça vient de la corruption. La vie que tu portes maintenant là, quand tu m'écoutes là, ça vient de la corruption. Oui, même si toute ta vie, tu l'as construite sur la corruption. Oyaba salaire baninga, à cause de toi, des gens ont fait des AVC. Ce que tu as fait, c'est mauvais. Cependant, peu importe ton passé, si tu acceptes de te repentir, Jésus a un héritage à te donner. Jésus ne s'intéresse pas à ce que tu as fait. Tu as porté combien de fois? C'est du passé. Tu as tué combien de fois? C'est du passé. Tu étais dans l'occultisme aussi de sa famille. Ce que tu as fait, c'est mauvais. C'est le péché. Cependant, oui, toi aussi qui as tué toute la famille, si tu viens à Jésus, il a un héritage à te donner. J'aimerais te dire, ne te laisse pas décourager à cause de ton passé. Que ton passé ne te freine pas. Que ton péché passé ne te freine pas. Que tes défauts ne te freinent pas. Même le regard des gens qui connaissaient ce que tu as fait ne doit pas te freiner. Toi, ta priorité, approche-toi de Jésus. Il a un héritage pour toi. Dans la présence de Dieu, nous tous, nous avons notre part. Dans la présence de Dieu, nous tous, nous avons aussi la possibilité d'obtenir la grâce. Oui, toi aussi, le Seigneur peut te donner ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Si le Seigneur peut te donner ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Eh oui. Même aussi, comme il donne aussi aux autres qui le craignent. Oui, même, il te donnera même plus que à ceux qui le craignent. Vous n'avez jamais vu ça avec Jésus. Toi, tu as créé le Seigneur pendant des années. Et il y a quelqu'un qui vient de se repentir aujourd'hui, tu as l'impression que toute la bonté du Seigneur se déverse sur lui. C'est pour dire que le Seigneur donne à qui il veut et ne demandera à personne pour donner. Toi aussi, le Seigneur peut te donner et ne demandera à personne. Peu importe ton passé, le Seigneur peut te donner à toi un héritage. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Le Seigneur peut te donner à toi un héritage. Que personne ne se sente découragé. Ah, bah, des fois, on a vraiment, en tout cas, vraiment, Nzambe, Azapo Nabatumsus, Nzambe, Azapo Nabiso Nyoso. C'est notre créateur à tous. Dieu est pour celui qui veut l'avoir. Si seulement tu veux, Dieu sera dans ton camp. Quand souvent nous sommes dans l'église, et pendant qu'on loue le Seigneur, c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Pendant que tu loues le Seigneur, tu sais que c'est lui-là qui est à côté de moi. Aïbati Ngamboum. Je vous assure, c'est compliqué d'être dans la maison du Seigneur. Aïbati Ngamboum. Et tout le monde a tort, tout le monde a tort. Et tu vois celui qui avait volé ton argent passer devant ici, mettre quelque chose. Dans lequel ça avait... Il t'a volé hier, aujourd'hui il a demandé pardon, il s'est repenti. Dès l'instant qu'il s'approche, quand il dépose comme ça, qu'il dépose ou qu'il ne dépose pas, le Seigneur dit, je te donnerai un héritage. Je me suis dit que quel que soit le péché que tu as commis hier, c'est passé. Le passé est passé, ne reviendra jamais. Le Seigneur a dit, avec moi, vous serez une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si c'est moi qui viens, moi je te donnerai un héritage. Otonga kadon kotonga na yo, vraiment tu deviens même indésirable, invivable. Les gens ne t'approchent pas, ils te fouillent, c'est pas grave. Ce que tu fais, c'est pas normal. Une personne normale a couru kotonga mouninga n'était pour rien. C'est pas grave. Même si c'était en toi comme défaut, si seulement tu te répands, même toi, kolomo tongi, Dieu te donnera un héritage. Même à toi, Dieu te donnera un héritage. Ce que tu fais est mauvais. Ce que tu as reçu est mauvais. Ce que tu endures est mauvais. Le canal par lequel tu es passé est mauvais. Mais même à toi, Dieu aussi peut te réserver un héritage. Ne laisse pas ton passé déterminer ton futur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'en fout de ton passé. Jésus n'a même pas voulu se renseigner pour dire que celui-là s'est possédé ici, c'est des gens. Il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne s'est pas intéressé à ça. Jésus est venu, il a dit « Sors ». De cet homme. Car le Seigneur, quand il y vient dans la vie, il ne s'intéresse pas à ton passé. Je m'étais dit que si le Seigneur devait tenir compte du critère de la sainteté, il ne marcherait pas avec toi. Alors ne mets pas le critère de la sainteté pour déterminer ton amour pour Dieu ou son amour pour toi. Approche-toi seulement du Seigneur tel que tu es. Tes faiblesses, il le connaît en dimanche au bongo. Approche-toi du Seigneur pour dire Seigneur, regarde tel que je suis. Est-ce que tu peux m'aimer? En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup.
Des fois, tu vois Dieu, sa façon dont il te conduit, il a des principes trop élevés, il a des choses qu'il veut. Et tu vois, les critères sont trop élevés, tu sens que tu n'y arriveras pas, tu te dis non. S'il y a une chose sur laquelle je vais m'appuyer, c'est ton amour. Si tes critères sont trop élevés pour les atteindre, au moins ton amour, je sais qu'elle est à ma portée. Je me dis que saisis l'amour de Jésus. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir la sanctification de Moïse, tu as la possibilité de jouir de l'amour de Dieu. Que l'on te prive de tout, mais que l'on ne te prive pas de l'amour de Dieu. Le troisième point, la confrontation des programmes. Le troisième point, la confrontation des programmes. J'ai trouvé que Jésus-Christ a bougé les programmes de plusieurs catégories de personnes lorsque nous lisons ces textes. Premièrement, d'abord, il avait bougé les programmes de ces pays ici, des Gadaréniens ou dans Luc on les appelle les Géraséniens. Jésus-Christ a bougé leurs programmes. Il est venu trouver des gens dans une ville qui avait leur économie, Bangoul, Nabango, 2000 cochons. Je ne sais pas si un cochon coûte combien. Un cochon, je ne sais pas si ça coûte combien. Il en avait 2000. Et puis, je me suis dit que cette économie-là, sûrement, ça soulevait beaucoup d'espoir, ça soulevait beaucoup des attentes. Et peut-être même que nous, ici, au Congo, on a ce qu'on appelle Bangandaya Ntaba. Peut-être qu'ils avaient Bangandaya Bangoulou, on ne sait pas. Mais il y avait les pourceaux, les cochons de 2000 bêtes, 2000 têtes. Et il y avait sûrement des personnes qui étaient engagées pour veiller sur ces troupeaux. Et puis il y avait aussi des marchés qui fonctionnaient en vendant la viande de porc. Et la maman rentre le soir avec un peu d'argent, elle a vendu les kilos de porc. Et puis il y avait aussi des abattoirs qui ont sûrement dû être créés pour abattre ces cochons. Donc il y avait une personne qui avait investi dans l'abattoir parce que tout ça n'a pas tête, n'a vu ça bangoulou. Il faut les abattre quelque part. Et puis peut-être qu'il y avait des restaurants qui fonctionnaient en préparant la viande des porcs. Donc une personne s'est dit que non, dans ces milieux ici, on aime la viande des porcs et je vais créer un palais juif où on mange la viande des porcs. Et puis il a investi son argent. Donc tout le pays fonctionnait autour des cochons. Tout le monde avait un programme. Je vais acheter un kilo de cochon, et puis je vais abattre aujourd'hui 3 bêtes, on va me payer $300, et puis je vais vendre autant, je vais préparer autant, ainsi de suite. Tout un pays fonctionnait sur un système. Et un beau jour, ils apprennent, David déclare que ces hommes sont allés répandre, et dans la ville, et dans la campagne. Ils sont allés répandre parce qu'ils étaient abattus. L'entreprise s'est effondrée. Jésus a pris tous les cochons dans l'eau. Jésus a perturbé tous les programmes. Bien-aimés, c'est l'image de notre société d'aujourd'hui. Nous fondons trop notre espoir sur des choses qui sont éphémères, qui vont passer, qui finissent dans l'eau. Et ça, c'est l'image de notre pays. C'est l'image de notre pays et de la vie du quotidien dans tous les sens. Lorsque nous regardons notre pays, quel désespoir, quel espoirs sont tombés dans l'eau. Je me souvenais, quand j'étais en train de préparer ce message, je me souviens d'une chanson qui était chantée dans ces pays. Tozanga ki maï solo. Tozanga ki mwinda solo. Tozanga ki bilia solo. Likolo yaba. Cette chanson était chantée pour des libérateurs. Vous vous souvenez? Depuis ce temps-là, le libérateur est passé, puis Bamoussou Baye. Dis-le l'autre. Tozanga Tozanga kaka maï. Solo, tozo ozanga mwinda, solo, bilei ya koluka, solo, musala ya koluka, solo. Mais combien de libérateurs sont passés? Quand le premier libérateur vient, il vous dit que non, ce qui s'est passé avant est anormal. Avec moi, je vous assure, le pays va aller là où vous connaissez ce que ça devait aller. On vient avec des slogans, avec des phrases, avec des promesses. Le libérateur passe, rien n'a changé. Les autres viennent encore pour dire que non, tu vois ce que les libérateurs, là, il a failli. Les choses doivent changer. Ces pays doivent se relever. Est-ce que vous savez que c'est un pays potentiellement riche? Le Congo peut se développer en une année. Ok, d'accord. En une année, Zouamboka. Bapé Siomboka. Zouimboka, Kambio, Kambio, Kambio. Si les autres, tous en la maï solo. Tous en la munda solo. Bileya Koluka solo. Chaque année,
chaque année, je vous assure, chaque année, année après année, ils viennent toujours avec de nouveaux programmes, de nouveaux slogans, des programmes, je ne sais pas, de visibilité ou de quoi que ce soit, mais la réalité sur le terrain, tous en maïs solo, tous en munda solo, tous en bilay solo, je suis fatigué. Il arrive des fois, tu regardes la télé, je ne suis même plus les infos du Congo, pour avoir la paix du cœur. Mais beaucoup, tu vois, tu vas écho. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ah bon? Tu apprends par écho. Bah, tu sais, vas-y, bah, choc, là-bas, moi, c'est pour faire son compte-rendu résumé. Je vous assure, parce que si tu suis nos chaînes, tu peux perdre la foi. Au pingui, Satan a pingui sauté, au koi na moi, mon ingate, au ibite, au pingui, Paul, il solo à Congo, Roberto, moté, mais bon, mio. Je vous assure, qu'est des promesses, qu'est des discours, qu'est des phrases, qu'est. Ah! J'aimerais vous dire que pour ces pays, il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Pour ces pays, arrêtez de nous distraire! Arrêtez de nous distraire! Arrêtez de nous mentir! Comme si vous êtes le sauveur, qu'avec vous c'est le miel, le paradis sous terre, le kouta. Vous êtes venus, vous passez, vous passerez encore. Les choses ne changeront pas parce que c'est lui seul qui a les programmes qui peut changer notre vie. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous dirons à Jésus, Jésus. T'as la vie sur le Cambo. Tu veux qu'on ait un tel, t'as la vie sur le Cambo. Et l'eau que sans athée. Bah, ma kada, mon kaka, y'a qu'au bout qu'on a tiré l'eau. Yesu, t'as la vie sur le Cambo. Alléluia. Le Seigneur est le seul dont les programmes s'imposent. Amen. Même pour les nations. Le Seigneur qui l'impose pour notre nation. Parce que tous nos espoirs, c'était comme les champs des cochons qui a fini dans la mer. Et dans toute la vie, c'est comme ça aussi. Quelle de déception. La sœur d'autrui là que toi tu as proposé là, son cœur était en paix. Elle n'a pas demandé que tu puisses la proposer tout en sachant que tu ne vas pas l'épouser. Tu viens, tu proposes la sœur d'autrui. Tu sais que tu n'iras pas loin. Rien que pour embrouiller son cœur. Et tu commences à donner des tensions, des maux de cœur. Tout ça, pourquoi? Des promesses non réalisées. Ce n'est pas grave. Le Seigneur a la capacité de donner à une sœur qui était déçue par un frère, l'homme de sa vie, qui ne le décevra jamais. Quelles des promesses non tenues, qui sont comme les troupeaux de cochons qui atterrissent dans la mer. Je me souviens quand je préparais mon mariage, je comptais sur les efforts perso, la force personnelle avec le peu que tu reçois. Et tu vas voir que pendant qu'on vous affiche, il y a des frères que tu n'as rien demandé. Tu n'as même pas voulu informer. Il a dit, oh, tu te maries. Ah bon? La salle, ne t'en occupe pas. Je prendrai les choses. Vous n'avez jamais connu ce genre de phénomène. Au tout nier et l'autre côté, au singe et l'autre côté, au louki était, au bengi était, au komeli était. Mais il dit, oh non, tu te maries. Les vêtements, c'est entre mes mains. Les repas, c'est entre mes mains. La salle, coucou, tu te reposeras en paix. Depuis qu'il a dit ça, son numéro n'est pas suffisant. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Ah! Qui t'a demandé des promesses, quoi que ce soit? Garde tes promesses pour toi. Laisse Jésus nous promettre que nous le vivons. Laisse Jésus nous promettre. Parce que quand Jésus promet, on le voit. Jésus-Christ, quand il te promet, il fera tout pour le réaliser. Ne nous fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir. Non, la Seigneur qui est au promettre. Non, nous nous battons avec nos propres moyens. J'aimerais qu'en 2021, que tu ne comptes sur la promesse d'aucune personne. Compte sur la promesse de Jésus, car Jésus-Christ a la capacité de te promettre et de faire en sorte que sa promesse voie la réalisation. Alléluia. Ma soeur, si tu étais déçu par les frères, c'est pas grave. Le Seigneur, même quand les troupeaux de cochons, même si ça vient de la mer, il peut te donner quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, il peut te donner un travail important. Je veux que ta vie, tu trouves les promesses que Jésus-Christ t'a faites et que ça s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Même les démons avaient un programme. Je trouvais que si la société avait un programme, même les démons avaient un programme. Leur programme, c'était que nous devons envoûter cet homme. La Bible déclare qu'il était dans les champs, se meurtrissant avec des pierres. Leur programme, c'est quoi? Il est dans les champs, tout nu, en train de crier, et il tape tout le monde, et puis il prend des pierres, et se tape. C'était un programme des démons. Je me suis dit, même un démon a un programme. Jésus-Christ a dit, sort, il refuse de sortir. C'est les seuls démons qui ont résisté à Jésus quand il a dit de sortir. Pourquoi ils ont résisté à Jésus? C'est parce qu'ils avaient un programme. Ils ont dit ceci, ne nous envoie pas dans l'abîme. L'abîme, c'est le lieu où les démons sont enfermés et ils sont torturés. Ils savent qu'il y a un temps où en enfer on va souffrir. Comme le temps n'est pas encore arrivé, pourquoi nous faire souffrir maintenant? Laisse-nous, pendant que nous sommes dans notre terre, ça c'est notre terre, notre royaume, c'est le royaume du prince des ténèbres, votre royaume viendra après. Laisse-nous dans notre royaume, parce qu'un jour viendra, nous allons souffrir. Le diable même a un programme. Et c'est toi pour ta vie que tu n'auras pas de programme. C'est toi pour ta vie que tu vas marcher sans plan, c'est toi pour ta vie que tu vas marcher sans objectif, c'est toi pour ta vie que tu vas marcher sans projet. Je vais te dire que le Seigneur te permet de réaliser tes rêves. Que Dieu te permet de réaliser tes projets. Tout homme, toute entité, même les démons, ont des programmes. Mais ce qui m'a plu, c'est que les hommes peuvent avoir leur programme. Les démons peuvent avoir leur programme, mais c'est seulement le programme de Jésus qui est inarrêtable. Quand Jésus-Christ, quand il dit, peu importe le programme qu'il trouve en place, il vous dit tout, c'est son programme qui s'impose. Et le programme que Jésus-Christ impose sera toujours en notre faveur. Je vais te dire que Jésus-Christ peut bousculer certains de tes programmes, mais ce qu'il va imposer sera toujours à ta faveur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Le Seigneur ne vient pas nous bousiller. Le Seigneur ne vient pas nous bousiller nos programmes pour que tu puisses échouer. Le Seigneur ne viendra pas bousiller ton programme pour te déstabiliser. Le Seigneur peut bousculer ton programme pour que tu puisses te retrouver demain. En conclusion, parce qu'on doit s'arrêter là. En conclusion, quel que soit ton état, Jésus peut défendre ton héritage. Quel que soit ton état, si tu n'es pas possédé comme un démon, possédé de 6000 démons, c'est-à-dire que ton cas est même inférieur à cet homme, Jésus peut défendre ton héritage. Amen. Est-ce qu'on peut juste courber la tête dans la prière? Quel que soit ton état, Jésus peut défendre ton héritage. Lève-nous s'il vous plaît, juste pour une minute seulement. J'ai parlé de beaucoup de choses, mais mon souhait aujourd'hui, j'aimerais que tu te sentes aimé de Jésus. J'aimerais que tu te sentes prêt à t'approcher de Jésus. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes défauts, peu importe tes lacunes, peu importe tes manques, peu importe ce par quoi tu es passé, peu importe ce que tu as connu, oui, Jésus a un héritage pour toi. Même si le monde ou la terre entière connaît les fautes que tu as commises, ceux qu'ils connaissent, ils les connaissent, on s'en fiche. Jésus ne s'intéresse pas à ton passé, Jésus s'intéresse à ton futur. Il te dit que je vais te donner un futur. Peu importe par où tu passes, je vais te donner un futur. Peut-être que tu as perdu la dignité, peut-être que tu as perdu ta famille, peut-être que ton couple est en train de se disloquer, peut-être que ta santé est en train de faner sous tes yeux. Jésus te dit, peu importe l'état dans lequel je te trouve, peu importe le programme de l'ennemi pour ta vie, peu importe la difficulté par laquelle tu passes, j'ai un programme de paix et de bonheur pour ta vie. Est-ce que tu peux dire au Seigneur pour dire, Seigneur, je viens à toi parce que moi aussi je vais goûter à ton amour. Je viens à toi parce que moi aussi je vais expérimenter ta bonté. Je viens à toi parce que moi aussi je vais expérimenter ta faveur. Je viens à toi parce que moi aussi je vais expérimenter ta bonté. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur, paix le gloire. Parce que nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, Seigneur, Père le roi. Besoin de ta vie, Seigneur. Pardonne nos péchés que nous avons commis dans le passé. Pardonne nos corruptions, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, Père le roi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons goûter à notre héritage au nom puissant de Jésus.
Merci, Seigneur. Ce n'est pas notre état qui t'empêchera de faire un programme pour nous. C'est pourquoi nous aimons chanter et dire Nakotikate Yesu Alinganga Banda Bumwana. C'est seulement par ton amour, ô Dieu.